L'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Queyrouga. Raphaël et Lucia, bonjour.
Bonjour.
On est ici à Pau, dans un endroit lié finalement certainement à des expérimentations d'éco-construction naturelle, de déconstruction, c'est bien ça Raphaël ?
Oui c'est ça, en fait vous êtes chez moi et c'est une maison bioclimatique, une maison de ville bioclimatique qui est issue de la déconstruction d'un ancien restaurant brésilien qui s'appelait La Capoeira, et donc voilà, on a mélangé déconstruction et puis technique bioclimatique et éco-construction.
Alors on va pouvoir parler de ta maison en compagnie de Lucia qui fait partie d'une même association, Hydre, donc l'interprofessionnel de la déconstruction du réemploi. Enfin c'est quoi le terme exact ?
Oui c'est ça, c'est l'acronyme pour interprofessionnel de la déconstruction et du réemploi, qui résume assez bien les missions de l'association pour le coup, puisque l'objectif c'est de réussir à structurer une vraie filière professionnelle pour remettre la déconstruction au goût du jour.
Alors, cette maison, elle t'a servi d'expérimentation peut-être pour monter ce projet qui est en phase, on va dire, qui est très très avancée, vu qu'il y a déjà des professionnels qui vous ont rejoint, vous avez déjà expérimenté, vous avez déjà sorti un petit peu de sous, il n'y a pas encore de salariés, mais voilà, c'est déjà très très avancé. Et c'est un projet qui est assez nouveau et ancien à la fois.
La déconstruction, c'est quelque chose de très ancien, puisque en réalité, on fait ça depuis la nuit des temps, à proprement parler, pour le coup, et ça s'est arrêté quasiment net au début du XXe siècle, et depuis, on ne pratique plus du tout ce principe-là de récupération des matériaux dans le bâtiment, et nous, on essaye de remettre ça au goût du jour.
Alors, comment tu l'expliques ? Et d'abord, c'est quoi la différence entre démolition et déconstruction ?
C'est très simple, c'est une histoire de rapport capital-travail. La démolition, c'est beaucoup de capital, très peu de travail. Pour l'illustrer pour les auditeurs, le capital, c'est la grosse pelle dans laquelle il y a un bonhomme, lui c'est le travail, et la grosse pelle en question a coûté des centaines de milliers d'euros, voire des millions, pour casser un bâtiment. Le résultat de ce capital avec si peu de travail, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup de déchets, du gravat, des pièces de bois qui sont cassées, etc., etc. Et que la déconstruction, à côté de ça, c'est beaucoup de travail. Très peu de capital, c'est-à-dire beaucoup de mains avec très peu d'outils pour démonter les matériaux de la manière la plus propre possible et pour en valoriser sous forme de réemploi, c'est-à-dire sans transformation de matière le plus possible.
Donc c'est pour des raisons techniques, mais c'est aussi peut-être pour des questions d'investisseurs, d'organisation dans les chantiers, de vision de ceux qui prévoient les choses, ou c'est peut-être aussi même lié aux matériaux qui sont utilisés ?
Même pas, en fait, c'est même plus simple que ça, c'est bêtement dû à l'industrialisation de nos sociétés et à leur mécanisation, avec un tournant particulièrement fort à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. En fait, les outils qui sont utilisés dans la démolition aujourd'hui, donc ces grosses pelles, ces grosses pinces, etc., sans citer de marque particulière, c'est l'enfant direct des chars d'assaut. Le développement de la technologie de guerre, il a bien fallu lui trouver une sortie à la fin de la guerre. Quand il n'y a plus la guerre, qu'est-ce qu'on fait des chars ? Eh ben, c'est simple, on les a transformés en pelles et on les a transformés également en tracteurs pour l'agriculture. C'est le même principe. Donc la démolition est principalement due en fait à la mécanisation de notre société et pas tant à un changement de matériaux ou de mode de vie ou tout ça quoi.
Ouais, j'ajouterais quand même que ça a un lien avec le mode d'exercice de l'architecte qui est lié à une problématique assurantielle, l'ordre des architectes, voilà. Donc les entreprises travaillent avec des matériaux qui sont donc issus de l'industrie, donc lobby industriel des matériaux de bâtiment qu'on rencontre dans tous les bâtiments construits aujourd'hui. Et donc pour avoir ces garanties-là, on passe par ce système-là qui est entre les lobbies, les garanties, les assurances. Voilà. Et il a été très difficile, même pendant nombreuses années, de réutiliser des matériaux biosourcés ou même biodégradables tout court, comme la paille, voilà, comme la terre crue, etc. Donc aujourd'hui, ça revient, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Et en effet, pour la déconstruction circulaire, donc on déposer quelque chose, démonter quelque chose proprement pour le remettre dans le circuit de bâtiment, c'est que la problématique est que ces choses-là qu'on va pouvoir réutiliser dans le bâtiment, elles vont avoir ces problématiques-là d'assurance, de garantie, etc. Donc tout ça va devoir évoluer de concert.
Au-delà de ça, de toute façon, c'est à peu près le même principe que celui qui s'applique à l'ensemble de la société de consommation. C'est-à-dire que la société de consommation, elle est basée sur l'obsolescence des produits, alors sans même forcément parler d'obsolescence programmée, mais simplement quand on a un bien, quel qu'il soit, qui arrive en fin de vie, le principe de la société de consommation, c'est de le jeter et de racheter l'équivalent pour pouvoir remplir cette fonction-là.
En neuf,
on est bien d'accord. Et c'est ce qui se passe dans le bâtiment. Aujourd'hui, le bâtiment est devenu un bien de consommation jetable comme les autres. Et pour que ça en arrive au bâtiment, c'est que vraiment la société de consommation a quand même été très très loin, quoi.
Oui, c'est-à-dire les maisons ont été construites de façon durable pour être transmises de génération en génération avec vraiment cet objectif, certainement depuis très longtemps, de chercher le durable. Et aujourd'hui, c'est plutôt effectivement des effets de mode et la demande du consommateur a évolué. C'est ça un peu, Lucia, toi, en tant qu'architecte, tu ressens ça ?
Oui, je ressens ça, évidemment. Je pense qu'on est tous conscients de ce problème-là. Quant à la durabilité, j'ai un doute là-dessus parce que depuis 30-40 ans, l'habitat individuel, il est construit pas par les architectes, mais à 80-85% par des lotissements, par des lotisseurs. 15. Bon, voilà. Donc, il nous reste les architectes sont complètement déplacés de cette problématique-là. Et donc, les maisons elles-mêmes, c'est-à-dire le lieu où on passe la plupart de notre temps, tous les lieux où on vit, mais ils sont construits dans l'optique de l'obsolescence programmée. Donc, ce sont des briques de peau de qualité, des placos de peau de qualité. Ce sont des matériaux qui vont finalement être. On est obligé d'avoir la garantie décennale, donc il faut qu'il dure 10 ans. Mais au-delà de ça, il y a énormément de problèmes de durabilité dans ces maisons-là. Voilà, qui sont des maisons de catalogue et qui en plus ont capté des milliers d'hectares de terres arables dans toutes les autour des villes.
Bon, passons au côté positif. Alors Hydre, donc l'interprofessionnel de la déconstruction et du réemploi de matériaux du BTP, justement, est en train d'émerger ici dans le Sud-Ouest. Mais la déconstruction, donc qu'on l'a bien compris, qui est plus durable, et le réemploi des matériaux dans le bâtiment, ça se développe de plus en plus. Il n'y a pas que ici. Vous avez certainement déjà échangé avec d'autres sur d'autres territoires. Ça, c'est quand même rendu possible et il y a des changements, du coup, des évolutions dans tout ça, notamment par rapport à ces questions de maintenant, on accepte la paille, on accepte le bois directement biosourcé, c'est-à-dire pas retravaillé par l'homme. On accepte des choses et on accepte aussi ces matériaux de déconstruction sur les chantiers. Comment ça se passe ?
Oui, on l'accepte de plus en plus. En France, c'est toujours pas quelque chose de standard quand même. Il y a d'autres pays dans lesquels c'est quelque chose qui est bien ancré. Je pense par exemple aux États-Unis où des entreprises de déconstruction, des magasins de revente de matériaux issus de cette déconstruction sont bien implantés. Ce sont des gros magasins, ce sont des grosses entreprises, c'est quelque chose de normal. C'est le cas également en Belgique avec le travail d'un collectif d'architectes qui s'appelle Rotor qui a fait un gros travail depuis milieu des années 2000 à peu près 2006, je crois, sur le sujet. En France, j'ai tendance à penser que le fait que nous soyons le pays de naissance des trois plus gros bétonneurs du monde, Bouygues, Vinci et Fage, pour ne pas les citer, fait qu'on est un peu à la ramasse encore sur le sujet, mais De fait, c'est en train d'arriver parce qu'on ne peut pas faire autrement. En fait, il y a une problématique sur les déchets qui est telle qu'il faut trouver des solutions alternatives, et la déconstruction en fait partie. Malheureusement, il y a bien la loi de transition énergétique qui vise comme objectif 70% de valorisation des déchets du BTP à l'horizon 2020, donc c'est-à-dire dans combien de dans un mois et demi. Et alors, d'une part, il y a le terme qui est employé, c'est valorisation. Hein, on n'est pas sur le réemploi. La valorisation, ça comprend énormément de termes différents, dont le recyclage. Et d'autre part, ça reste un vœu pieux, puisque il n'y a aucun objectif concret au final de fixer dans cette loi, si ce n'est cette annonce des 70%. Et il n'y a surtout aucune coercition derrière. Donc il n'y a pas de décrets qui sont sortis, il n'y a pas d'obligation pour les maîtres d'ouvrage, quoi ou qu'est-ce. Ça reste un vœu pieux pour l'instant en France.
Mais est-ce que vous sentez quand même un soutien des collectivités par rapport à votre projet ?
Oui, tout à fait, et notamment par rapport à la question des déchets dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que toutes les collectivités de France et de Navarre juste ne savent plus où mettre les déchets du bâtiment. Tout ce qui concerne les déchets inertes, donc tout ce qui est gravats de béton, de briques, terre d'excavation, etc., etc., ce qui représente quand même la très grosse majorité des déchets du bâtiment, bah, bêtement, on manque de place. On n'a plus d'endroit où les mettre, donc il faut bien trouver des solutions. Et ça, c'est directement les communes qui sont impactées et pas tellement l'État. Donc même si l'État, alors je reviens un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, malgré tout des choses avancent, puisqu'il y a actuellement une loi qui est en cours de discussion pour revisiter le diagnostic déchets et mieux intégrer la déconstruction et le réemploi, mais ça reste encore le tout début, quoi. Pour l'instant, ce qu'on fait beaucoup, c'est de la sensibilisation déjà, parce que comme on en est encore qu'au début, il faut expliquer pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire ça et comment est-ce qu'on peut le faire. Mais si on regarde de manière plus concrète, alors l'association elle-même regroupe aussi bien des architectes que des maîtres d'ouvrage, que des artisans, que des techniciens du bâtiment. L'idée étant de réussir à faire avancer l'intégralité de la filière du bâtiment en même temps sur cette problématique, et ne pas viser juste un corps de métier particulier comme les architectes par exemple, dont je fais partie, je suis architecte de formation. Le résultat de ça, c'est que nous, on expérimente la déconstruction, parce que comme ça fait plus d'un siècle maintenant qu'on ne pratique plus ça, on a perdu tout le savoir, notamment organisationnel, vis-à-vis de ça. On ne sait plus organiser un chantier de déconstruction, on ne sait plus quoi faire des matériaux, comment les revendre, comment les qualifier, comment les remettre en état, et puis bêtement, comment les démonter même techniquement. Donc nous, on fait des chantiers expérimentaux sur lesquels on va tester différentes techniques de déconstruction. On va tester des outils, on en développe également, et on explore tout ce qui concerne aussi la remise en circulation de ces matériaux, c'est-à-dire quels sont les besoins vis-à-vis des professionnels, enfin quels sont les besoins des professionnels en termes d'informations sur un matériau pour qu'ils puissent se le procurer et le réemployer dans un bâtiment sans prendre trop de risques. J'entends par là une pièce de bois par exemple qui va être démontée, il faut pouvoir la qualifier sur le plan de sa pérennité structurelle, ses qualités structurelles, parce qu'une assurance ne va jamais couvrir le réemploi d'une pièce de bois de ce type-là si elle n'a pas la certitude que effectivement elle est capable de supporter la charge qui va bien et tout et tout. On expérimente cet aspect-là aussi, jusque dans la rédaction des annonces de revente d'ailleurs, puisque on s'est rendu compte que l'un des gros moyens de revendre les matériaux issus de la déconstruction, ça reste encore pour l'instant le Bon Coin, et que sur le Bon Coin, on trouve beaucoup de matériaux, mais la plupart du temps, les annonces sont assez mal rédigées. Résultat, les professionnels peuvent même pas s'en occuper dans la mesure où ils n'ont pas suffisamment d'informations techniques. Bêtement, la quantité, la qualité, l'âge, la méthode de dépose, où est-ce que ça a été utilisé, etc. Et donc nous, dans les annonces qu'on fait sur la revente des matériaux, on essaye d'être le plus exhaustif possible quant à sa provenance, quant à son âge et sa fonction, de manière à ce que les professionnels puissent vraiment savoir ce qu'ils ont à disposition, quoi.
Oui, je dirais même qu'on imagine, pouvoir à un moment donné avoir une communication complète entre les démontages des bâtiments et la réutilisation dans un autre site. Ça peut être un site propre comme ici, in situ, mais ça peut être aussi vendu dans des plateformes. Alors pour l'instant, Bon Coin, oui, mais après, plateforme professionnelle, il y en a plusieurs qui sont en train de se monter dans le coin. Et en fait, l'idée, c'était même d'envisager un flux tendu entre le bâtiment qui est en train d'être démonté, déconstruit, et celui qui va être construit avec ces matériaux qui ne sont donc plus considérés comme des déchets, mais comme des matériaux de bâtiment. Et en fait, arriver à communiquer sur toute cette chaîne de bâtiments-là pour que les choses aillent d'un endroit à l'autre en flux tendu, en circuit court, voilà.
Thank you.
Alors, si vous voulez monter votre maison à partir de matériaux de déconstruction, au final, c'est moins vers Hydre qu'il faut se tourner que les artisans qui font partie du réseau. Mais si je reviens sur la première étape de la déconstruction, en fait, c'est un peu comme pour un chantier de construction, bêtement. Quand on fait de la rénovation, la première étape, c'est le relevé de l'existant. Il faut qu'on sache à quoi ça ressemble pour pouvoir imaginer le projet de rénovation qu'il va y avoir derrière. Pour la déconstruction, c'est exactement la même chose. Avant de se lancer dans le démontage d'un bâtiment, et encore plus dans le réemploi des pièces qui vont en sortir, il faut déjà faire le listing de l'existant. Il faut savoir ce qu'il y a sur place, quelle quantité, quelle qualité, et puis quelle méthode de dépose on va employer. Donc ce qu'on a développé de notre côté, il s'avère, c'est assez marrant, que les différents groupes qui travaillent sur le sujet à travers la France développent à peu près les mêmes outils. C'est ce qu'on appelle, nous, une étude ressource. Donc là, c'est ça, cette première étape. L'étude ressource, en fait, ça consiste à visiter le bâtiment, prendre en note l'intégralité des matériaux qui sont présents, les quantifier de manière la plus précise possible, et organiser sous forme sur la question du stockage, l'organisation du chantier de déconstruction. Donc où est-ce qu'on va entreposer les 600 mètres carrés de couverture qu'on aura démonté? Est-ce qu'il faut les sortir du site? Est-ce qu'ils vont être réemployés sur site ou pas? Et donc cette étude ressource, c'est vraiment le point de départ. Sans cette étude ressource, en fait, on va se lancer dans une déconstruction qui ne va pas forcément avoir de sens, et on ne va pas être en capacité de gérer la quantité de matériaux. Ce dont on ne se rend pas compte la plupart du temps, c'est que pour un chantier de rénovation ou un chantier de construction neuf, les matériaux arrivent au compte-gouttes. Ils arrivent petit à petit en fonction des corps d'état, en fonction de l'état d'avancement du chantier. Dans le cas d'une déconstruction, les matériaux sortent tous très rapidement en fait, du bâtiment. Alors c'est très rapidement sur plusieurs mois, sauf que c'est quand même beaucoup plus rapide qu'un chantier de construction. Résultat, il faut gérer ces flux-là et il faut savoir dans quel ordre on va démonter tout ça, comment on va les stocker, comment on va les emballer aussi bêtement. Par exemple, du matériel électrique, de fait, on ne va pas le stocker à l'extérieur et un éclairage, on va le mettre dans des jolies boîtes avec de la protection pour qu'il ne soit pas abîmé. Donc c'est tout ce travail-là en amont qui est à faire et qui permet ensuite d'organiser véritablement un chantier et d'organiser le flux de circulation des matériaux qui va sortir de là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait l'étude ressources, on est en mesure de dire, j'ai à disposition tant de mètres carrés de plancher de tel type, telle épaisseur, telle résistance, etc. etc. Il sera déposé à un horizon de 6 mois, 1 an, 2 ans, en fonction de l'état d'avancement du projet. Et donc on sait qu'à cet horizon-là, il faudra qu'il soit déjà reparti, dans l'idéal, si on veut éviter le stockage. Et donc il faut bien avoir le maximum d'informations en amont pour pouvoir réussir à lui retrouver un réemploi le plus tôt possible. Alors, d'une part, il y a le coût de gestion des déchets, alors qui est pour les professionnels qui est payé par la mise en déchetterie. Donc ça, c'est un coût. Mais ce qu'il faut prendre en compte aussi derrière, c'est justement le remboursement de ce capital qui est cette grosse pelle, par exemple, puisque l'entreprise, elle l'a acheté à crédit, hein, faut pas se leurrer. Donc ça rentre en ligne de compte. Et il s'avère que la plupart des bâtiments, c'est pas le cas de tous, hein, mais pour une grosse majorité, ce qu'on est en capacité de sortir en termes de valeur matière est vraiment important et couvre la plupart du temps le surcoût de la déconstruction par rapport à la démolition. Une démolition, c'est cher, effectivement, puisqu'il y a ce remboursement de capital à faire, etc. etc. Et puis les prix ne sont, pour le coup, pas du tout encadrés. Hein. Mais le surcoût des salaires que peut engendrer une déconstruction est généralement compensé par la valeur des matériaux qui en sortent. On démolit en fait des matériaux qui sont de telle qualité qu'on peut générer des milliers d'euros avec ce qui sort de là. Nos expériences qui sont à petite échelle, on reste une petite association et on a fait des chantiers expérimentaux sur des petits bâtiments, des maisons individuelles la plupart. Donc on travaille sur des petites échelles, mais les diagnostics ressources qu'on a pu faire sur des bâtiments plus importants ont montré que c'était valable également dans ce cas-là. J'ai en mémoire un bâtiment de 1000 m² dans lequel l'étude ressources plutôt que diagnostic a permis de démontrer qu'il y avait 250 000 euros de matos qui étaient en dormance en fait dans ce bâtiment. Ces 250 000 euros, c'est le prix équivalent neuf de matériaux qui vont être rachetés de toute façon pour faire la rénovation. Je pense à du matériel électrique qui est aux normes, je le précise, et non pas des choses qui datent des années 50. Je pense à des matériaux nobles du type bois ou couverture en ardoise ou ce genre de choses. Donc tout ça a une vraie valeur. Tout ça, on sait le démonter aujourd'hui et ça permet de compenser les coûts. Ouais.
Et ça collabore aussi à la diminution de quantité de déchets dans les déchetteries, parce que ça, c'est une problématique aussi. On sait déjà de l'espace, c'est de l'argent public, souvent. Et tout ça, c'est potentiellement pollution de nappes phréatiques, de l'air. Voilà. Donc ça contribue aussi à ça. Et évidemment, tout ce qui est acheté en déconstruction, qui n'est pas acheté en neuf, c'est de la matière première, ressources naturelles, d'économiser aussi.
Et alors, j'ai été regarder sur Internet, la déconstruction est présentée comme quelque chose de hyper moderne, où on voit l'impression 3D arriver, et puis le BIM. Alors je me dis, tiens, c'est nouveau, tiens ça. Building Information Modeling, modélisation et maquette numérique. Alors, est-ce qu'on a besoin de tout ça pour faire de la déconstruction ? C'est quoi cette histoire de technologie qui arrive là-dedans ?
Alors, donc les avis sont un peu partagés là-dessus. Le BIM, il faut savoir que ça a été développé à la base pour la construction, pas pour la déconstruction. Le BIM, c'est ce qui permet de faire des maquettes numériques des bâtiments au stade de projet et de permettre aux entreprises de tous travailler sur le même modèle numérique. Donc le plombier va travailler sur la même maquette que l'électricien, que le maçon, que le charpentier. Ce sont des techniques qui sont effectivement ultra high-tech. Certains y voient un intérêt pour la déconstruction, principalement sur la question de l'organisation du chantier et le référencement des matériaux. De notre côté, on n'est pas complètement convaincu de l'intérêt du BIM dans le cas de la déconstruction. La déconstruction nécessite très peu de technologie. C'est une fois de plus beaucoup de main-d'œuvre et des outils très simples. Donc on peut avoir besoin d'un Manitou ou d'un outil de ce type-là quand on travaille sur une couverture, effectivement. Mais on n'a pas a priori nécessité à modéliser tout le bâtiment pour savoir ce qu'il y a dedans. J'ai tendance à penser, mais c'est une opinion personnel, que si aujourd'hui on essaye de caser le BIM dans la déconstruction, c'est parce qu'il faut réussir à implanter le plus possible cet outil qui pour l'instant n'arrive toujours pas à s'implanter de manière forte dans l'intégralité du processus de construction, c'est-à-dire que sur les gros bâtiments effectivement on fait de la modélisation BIM, sauf que c'est quelque chose sur lequel les industriels travaillent depuis très longtemps et je pense qu'ils ont très envie de voir cet outil se développer quelle que soit sa fonction. Quoi.
Quelque part ça pourrait permettre à la personne, architecte ou pas, qui conçoit les bâtiments de prévoir la phase de déconstruction, démolition dès la construction, donc ça pourrait être pas mal.
Je pense que ça se fera très certainement le jour où on concevra des bâtiments déjà dans l'optique de pouvoir le réemployer.
Pour pousser dans cette réflexion-là, en effet, et c'est quelque chose sur quoi la déconstructibilité des bâtiments neufs, c'est quelque chose sur quoi différents organismes travaillent déjà, dont Nobatec, INEFCAD par exemple, qui est un centre de recherche sur le bâtiment qui fait partie aussi du comité d'administration de Vidre. Donc ils travaillent sur le bâtiment démontable à travers leur projet BAZ. C'est super, il n'y a aucun doute là-dessus, et je pense qu'en effet, il faut aujourd'hui qu'on envisage la construction de bâtiments neufs en prenant en compte leur démontabilité. La réalité physique du bâti aujourd'hui en France, mais dans la plupart des pays de toute façon, c'est qu'il y a un bâti existant de plusieurs millions de bâtiments. Ces bâtiments-là n'ont pas été conçus comme ça. Et c'est ces bâtiments-là, au final, qu'on a surtout à démonter, et pas les bâtiments neufs. Les bâtiments neufs, il faut envisager de les démonter d'ici à une trentaine d'années, éventuellement, voire 60 si on prend le turnover du bâti aujourd'hui. Mais le bâti ancien, il n'a pas été prévu pour ça. Donc, de toute façon, il faut bien faire preuve d'autres techniques et d'autres manières de voir pour le bâti ancien. C'est pas pour autant que il faut faire l'impasse complète sur les matériaux industriels et ce genre de technologie. La maison donc qui est derrière nous, l'isolation qui est sous la chape, c'est du polystyrène extrudé. Donc c'est quelque chose qui, a priori, qu'on va éviter dans une construction 100% matériaux biosourcés, etc., etc. De la même manière, on vit dans une société avec énormément de matériaux industriels issus de la pétrochimie, du type polystyrène, du type plastique, etc., etc. On ne peut pas faire semblant qu'ils n'existent pas. Partant de là, l'impression 3D, potentiellement, j'en sais rien, je ne me suis pas réellement posé la question sur le plan technique, mais potentiellement ça peut être une solution pour utiliser ces millions de tonnes de plastique qui se baladent partout pour en faire autre chose. Je ne suis pas fan du plastique, loin de là, mais bon, il va bien falloir quand même qu'on gère ce truc-là. Donc il y a différents essais qui sont faits à travers le monde, mais peut-être que pour le coup l'impression 3D, ça peut aider à ça, à voir.
C'était l'ours et la carotte, écoutable sur internet.